Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Vous êtes bien sur Café César avec Myriam et ses invités. Café César, c'est notre petit moment d'enchantement où j'invite mes invités en studio, mais vous aussi mes auditeurs, à découvrir une histoire de César et à échanger autour de cette histoire pour voir où elle nous a inspirés. Alors, je salue mes participants du jour, que je suis très heureuse de retrouver en studio avec moi. Bonjour Patrick.
Bonjour Myriam. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour Bruno.
Bonjour Myriam, bonjour à tous.
Et bonjour Christelle.
Bonjour Myriam, bonjour à tous.
Alors on va quand même dire pourquoi est-ce que je ris à nos auditeurs, mais tout simplement parce que nous ne nous sommes pas quittés. Et comme nous enregistrons deux émissions à la suite, eh bien mes invités, moi je ne les ai pas quittés. Alors, voici l'histoire du jour. Elle est extraite de César et le maître des hirondelles à la page 36 et nous écoutons la belle voix de Patrick.
Ils arrivèrent dans une sorte de clairière ouverte sur l'immense étang de la Gabrière. Incroyable point de vue, comme un balcon sur le silence et l'immobilité absolue. Incroyables effets sur la vie intérieure quand soudain, tout mouvement est une disgrâce et tout bruit devient un blasphème.
Là, sans aucune explication, Lucien se chercha un endroit propice pour s'asseoir en tailleur. Et Myrtille fit de même de son côté. Alors, pour ne pas paraître idiot, Jérôme partit un peu plus loin s'installer à son tour. Et les minutes passèrent. Il n'y avait plus que cela, plus rien d'autre à quoi s'occuper. Juste le temps qui s'écoulait et d'incessants allers-retours entre la nature sous ses yeux et les pensées dans sa tête qui défilaient. Oh bon sang, comme c'était étrange! Du silence et de l'immobilité absolue surgissait soudain le spectacle de toute une vie profonde au dehors que l'on ne voit jamais quand on passe seulement. Comme si, en s'arrêtant de la sorte, on pouvait enfin apercevoir quelque peu l'ordre du monde. Incroyable, pensa Jérôme, qui fut soudain submergé par des bouffées de ravissement incontrôlés.
Sans même le savoir, il se laissa glisser sur cette pente des petits enchantements secrets. Et bientôt, il aperçut de façon aussi claire tout un monde de pensées qui faisait sans cesse des commentaires sur des choses perçues. Il se sentit double comme jamais, comme s'il y avait celui qui se ravissait au dehors et celui tout aussi présent au-dedans qui regardait le ravi en faisant toutes sortes d'observations.
Oui, mais voilà, si dehors tout paraissait en ordre, dedans, c'était toute autre chose qui surgissait soudain. Son désordre, son chaos quotidien. Autant il lui était montré d'amour dans la nature, autant il mesurait le non-amour de sa propre nature. Et les commentaires allaient bon train. Quant à la paix de l'étang à l'anguille répondaient les petites guerres mesquines de son couple crispé. Quant à la brise légère caressant les branches des arbres, répondait la tornade de ses journées passées à courir. Quant à la gaieté enfantine des oiseaux, répondait la tristesse de ces semaines. Bientôt, le silence et l'immobilité d'abord délicieux devinrent un tourment lancinant, celui de se voir et de ne pas se supporter.
Mais soudain, il se produisit un premier flash, comme s'il venait de voir un petit garçon, de façon fugace dans un miroir magique traversant le temps. Il avait 4 ans peut-être, et il pleurait si sincèrement. Comme il était beau, ce petit garçon, comme il était touchant, comme il était seul aussi, si seul au milieu, mais au milieu de quoi? Se demanda presque malgré lui Jérôme au moment où l'image disparaissait.
Et puis, ce fut un second flash, presque tout de suite suivi d'un troisième, comme si des écluses secrètes s'ouvraient au-dedans. De nouvelles images venaient d'apparaître sur son écran intérieur. Il ne pleurait plus, le petit garçon. Il tendait sa main dans le vide, un vide absolu. Oh mon Dieu, cette main! Il y avait tant de détresse dans cette main que Jérôme fut presque effrayé en la contemplant. Il courait maintenant, il courait à perdre haleine en criant « Maman !» Mais elle avait tant de choses à faire qu'elle ne pouvait pas l'entendre, cette maudite maman. Alors il y eut quelques secondes en suspens, des secondes de notre ordre, Des secondes dans l'éternité sans doute, et soudain un quatrième flash vint frapper Jérôme de plein fouet.
Étrangement, cela faisait un mal de chien de voir ce petit garçon. Et en même temps, cela produisait comme un soulagement sacré. Étrangement, alors qu'il pleurait les larmes les plus terribles de sa vie, celles qui coulent en silence tant la souffrance n'a plus besoin de faire le moindre spectacle, eh bien, il était heureux quand même. Incroyable. Ce qu'il ne supportait pas de voir chez l'homme devenu adulte, il l'acceptait si facilement chez l'enfant qu'il avait été. Incroyable. Il avait envie de l'étreindre, envie de le consoler, ce petit bonhomme si malheureux. Incroyable. Il ne le savait pas encore, mais pour la première fois, il venait tout simplement de s'aimer lui-même.
Alors, un mystérieux bonheur lui fit esquisser un sourire devant l'ordre du monde au-dedans, si semblable à l'ordre du monde qu'il voyait au-dehors. Et c'est là que l'impensable se produisit, l'impensable communion avec tout, d'un seul coup, dedans, dehors, confondu. Et voilà, c'était un extrait de César et le maître des hirondelles, un extrait de ce troisième livre de la saga des Césars que je voulais partager avec vous. Vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur Radio Bulle, votre radio de la jeunesse. Alors, mes invités en studio, et vous aussi, mes auditeurs, peut-être que vous avez ressenti une émotion, un sentiment, ou vu une image de cette histoire. Est-ce que vous avez envie de le partager avec nos auditeurs ?
Ben moi, pour ma part, déjà, j'ai trouvé ce texte très, très poignant. Et cette image de ce petit garçon si malheureux, ce petit garçon qui est donc bien sûr lui-même, ça m'a renvoyé aux blessures de l'âme et ouais, ça m'a chamboulé.
Il est fort ce texte, je reconnais. Et je pense que Patrick l'a bien donné avec beaucoup d'émotion.
Oui, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Cet enfant qui ne triche pas. Cet enfant qui ne ment pas, cet enfant qui ne joue pas avec les sentiments, les ressentis qui sont les siens. Il n'a pas besoin de faux self comme nous pour exister, il n'a pas besoin de masque, il est naturel. Et je crois que c'est un petit peu notre mission à chacune et à chacun d'entre nous d'aller à la rencontre de ce personnage caché au plus profond de lui-même et qui appelle au secours. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est essentiel dans le texte que nous propose Bernard Montault. Vous avez entendu les presque derniers mots, c'est « il venait de s'aimer lui-même ». Et ça, c'est essentiel. Si je veux aimer les autres, encore faut-il que je m'aime moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire « s'aimer moi » ? C'est pas être dire je suis le plus grand, je suis le plus beau. C'est s'accepter avec toutes ces petites misères et accepter la souffrance qu'il y a en chacune et en chacun d'entre nous. Et ainsi, si je peux accepter ma propre misère, comme dit Bernard Montault, peut-être que je serai beaucoup plus bienveillant avec celle des autres.
Oui, moi ça m'a fait penser au fait qu'il faut vraiment être un enfant pour réussir à faire un avec l'univers. Et à se sentir vraiment en osmose avec toutes ces sensations, qu'elles soient auditives, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient sensorielles. Oui, il faut vraiment être un petit garçon. Et puis je pense qu'il a refait ce chemin retour en arrière. Et qu'il a réussi à ressentir ses émotions. Et oui, c'est formidable, c'est sûr.
Et on ne peut le faire que dans le silence et l'immobilité.
Oui. En dehors des soucis du quotidien.
Et c'est vrai que c'est, tu dis qu'il a réussi à le faire, mais c'est tout un art que d'apprendre à retrouver un souvenir, que d'apprendre à plonger dedans et c'est à reconquérir. Ce n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes.
C'est même le contraire. Il est prouvé que les enfants sont beaucoup plus doués que les adultes à faire ce genre de rétrospection et de sentir les choses.
Oui.
Et c'est justement au fur et à mesure que l'on prend de l'âge, qu'on devient de plus en plus, on sort du statut d'enfant pour entrer en quelque sorte dans le statut de robot. Et si on arrive à tout stopper, le temps, les activités, etc., et pour redevenir un enfant, et là on peut se rappeler, grâce à notre cerveau extraordinaire, on peut se rappeler ce qu'on a été et ce qu'on a ressenti aussi un petit peu. Et oui, c'était un très beau texte, comme disait Christelle. Et oui, une belle leçon aussi.
Moi, j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu as dit, Bruno, si on prend un petit bébé, il vit dans l'instant présent. Ses envies, ses émotions, c'est maintenant, c'est tout de suite. En grandissant, la vie fait qu'on a des coups durs, la vie fait qu'on nous a appris, la société nous a appris à être, nous a façonnés d'une telle façon. Et puis, il y a effectivement toutes nos préoccupations, notre travail, tout ça fait qu'on n'est plus dans l'instant présent. Ou on est dans le passé, ou on est dans le futur, mais on n'arrive plus à l'être instant présent. Et moi, je dirais qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'instant présent, on n'arrive plus à se connecter à son petit enfant.
C'est vrai, tout à fait. Très belle réflexion, Christelle. Merci, parce que c'est vrai que c'est totalement juste. Et là, à partir jusqu'à 7 ans. Et après, c'est fini.
Et 7 ans étant l'âge de raison. Voilà.
Et oui. L'inconscient se ferme. Et n'oubliez jamais, chers amis, que si vous cherchez les raisons des métiers que vous exercez aujourd'hui, elles sont souvent avant l'âge de 7 ans. Et puis, réfléchissez-y.
J'aimerais faire un petit parallèle avec ce que vient de dire... Ce que viennent de dire Christelle et Patrick. Une petite anecdote, un petit truc qu'on a tous remarqué plus ou moins. Les bébés savent nager. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils ne savent plus nager. Et après, on arrive à adulte où carrément les gens ont peur de l'eau. Et c'est extraordinaire ce phénomène quand même.
On perd la confiance, on perd quelque chose de naturel.
On perd tout, l'eau devient quelque chose à éviter, de complètement irrationnel, oui. Alors qu'un bébé, non, l'eau fait partie de lui et il n'a pas peur.
C'est par rapport à ce que dit Bernard, c'est que le petit bébé est un être extrêmement intelligent. Il est capable d'entendre toutes les consonances, toutes les subtilités de n'importe quelle langue.
Il va
ressentir au plus profond de lui tout cela.
Oui.
Et à partir de quelques années, il va commencer, même quelques mois, il va commencer à avoir une écoute sélective, une vision sélective. Et comme dirait Daniel Marcelli, il commence à être con. Quand il est véritablement très intelligent, très éveillé, c'est quand il a quelques mois et qu'il est tout hypotent, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a toutes les possibilités. Et ensuite, ces possibilités se restreignent parce que, comme l'a dit Christelle, il y a la rencontre avec la famille, il y a la rencontre avec l'école, il y a la rencontre avec toutes les contraintes sociales, tous les formatages qu'il va subir et progressivement, il va s'éloigner de cet enfant intérieur.
Pour dire un petit peu la même chose que Patrick, mais de façon plus vulgaire, on va dire, on devient bête quand on rentre à l'école, en fait.
Oui.
Ben oui. Oui.
Alors, tout à l'heure, Patrick, tu parlais tu revenais sur le silence et l'immobilité, et moi, je voulais quand même dire que c'est vrai que c'est quand même un entraînement, une pratique, et pour moi, le pratiquer depuis 18 ans, je dirais... c'est-à-dire s'asseoir en silence, en immobilité, même s'il y a plusieurs exercices différents, c'est toujours le but, un entraînement à retrouver son petit enfant intérieur, comme on dit, à retrouver la petite fille et pour vous, le petit garçon de nos souvenirs. Et on n'y arrive pas à chaque fois, attention, mais c'est de tenter qui permet de toujours tenter, comme rappelle César, hein, l'essentiel, c'est de tenter, ce n'est pas de réussir, parce que dès lors que l'on tente, on n'est déjà pas dans le monde de la guerre. On a déjà choisi le camp de la paix. Et je profite de cette émission pour dire que justement, eh bien, le 31 mai, je préviens les auditeurs que justement Bernard Manteau et Sanji Rambo-Atiana, qui ont écrit César l'imparfait heureux, vont venir au Contrepoint, au Café Théâtre, pour une conférence où je pense qu'ils vont largement développer ce thème et vous pourrez leur poser toutes vos questions sur ce sujet et comment eux, ils le vivent. Et je crois que nous, on expérimente pas mal les images qui nous viennent comme ça dans l'émission et vous allez voir que c'est un peu aussi le secret pour rencontrer le souvenir, plonger dans le détail. Mais je n'en dis pas plus, vous allez venir découvrir.
31 mai, le Contrepoint.
On sera là.
Je te coupe juste une seconde.
Oui.
Je voudrais quand même insister justement sur le silence. Au niveau du silence et de l'immobilité, c'est très difficile d'y aller, c'est sûr. Et parfois, on ne veut pas y aller. Parce que pour moi, y aller, c'est se confronter à nos blessures. Et c'est se confronter à nos souffrances. Et parfois, on ne veut pas. Il y a des gens qui ne veulent pas être seuls, qui ne veulent pas se retrouver dans la solitude.
La plupart. Hein.
Voilà, qui veulent du bruit, ne serait-ce qu'une musique. Parce que ça nous obligerait, quand c'est trop dur, quand pour certaines personnes, c'est beaucoup trop dur, beaucoup trop difficile, leur vie, et être obligé d'être dans le silence et être obligé d'être dans leur douleur, et ils n'en sont pas en mesure.
Tout à fait.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose, tout en validant ce que vient de dire Christelle. Est-ce quand on essaie de faire fermer les yeux à des adolescents, ça devient très, très, très difficile. Certains y arrivent. Quand je dis adolescents, je fais référence à des élèves d'un grand lycée à Genève. Élèves de première, on fait fermer les yeux. Et très vite, vous avez des éclats de rire. Vous avez des manifestations d'humeur. Car comme le dit Christelle, quand je ferme les yeux et que je m'abandonne, je suis vulnérable. Je ne suis plus en sécurité. Je sais que je peux être, là aussi, agressé par quelqu'un. Alors, je m'amuse à observer ces jeunes et je remarque qu'à travers les paupières ne sont pas closes tout à fait, elles sont mi-closes parce qu'on est en vigilance. Et quand je suis en vigilance, je ne peux pas m'abandonner.
Mais je crois que c'est normal pour cet âge-là, Patrick.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut. Alors, il faut un exercice, parce que dans d'autres établissements, on y arrive.
Ah oui.
Mais il faut, finalement, là aussi, une habitude.
Et oui.
Et il ne peut rien m'arriver la première fois. La deuxième fois, j'ai apprécié ce qui s'est passé, je demande à le refaire. Et
oui.
Avec quelque chose, mais là aussi, qui rejoint ce que disait Christelle, on ne veut pas y aller vers cet enfant intérieur. Alors, pour certains, je ne veux pas fermer les yeux parce que c'est trop difficile. Je ne m'abandonne pas. Et quand je réussis, il y a un autre mécanisme de survie que nous détenons, c'est le sommeil. Et
oui.
Et les élèves s'endorment. Parce que comme ça, ça me permet
de
m'évader.
Eh bien, cela me permet de rebondir sur le petit jeu que je voulais proposer aux auditeurs. Peut-être qu'avant de vous confronter au sommeil, on ne sait jamais. Je vais vous proposer le jeu de vie de Jacques, qui se trouve dans César l'imparfait heureux, qui s'appelle tout simplement le silence immobile. Alors, installez-vous dans une position assise de votre choix, sur le sol, sur une chaise, sur votre lit. Essayez de garder pendant, allez, 15 minutes l'immobilité et le silence.
Ouais, c'est ça.
Regardez seulement passer vos pensées. Identifiez-les, nommez-les à haute voix. Une pensée passe, je la vois, je la dis à voix haute, je la laisse filer, etc.
C'est un bel exercice.
Et nous avons oublié de conclure. Si vous deviez conclure cette émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en une phrase ?
Que si on veut avancer dans la vie, il faut absolument aller vers son petit enfant, lui parler, le cajoler et guérir. Et là, on avancera.
Va vers toi. C'est le plus grand, le plus merveilleux, mais aussi le plus difficile des voyages.
Alors, je ne sais plus qui c'est qui a dit « Ne parle que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence. »
C'est très beau. Je ne sais plus quoi rajouter tellement vous avez résumé, vous avez tout dit.
Puis rappelez-vous ce que dit Bernard Manteau, la première paix intérieure,
commence
dans nos poitrines.
Dans nos poitrines. Où se trouve le petit garçon et la petite fille.
Si je vais être en paix, il faut que j'aille vers là. Je crois que nos gouvernants feraient bien de lire Bernard Montault et surtout de le mettre en pratique.
Et la capitale de la poitrine, c'est le cœur.
Tout à fait.
Et voilà. Il ne faut pas oublier aussi que si on veut que les autres nous aiment, il faut commencer par s'aimer soi-même.
Tout à fait.
Très juste. Eh bien, ça y est, les amis, et c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Merci infiniment à Patrick, Bruno et Christelle pour leur généreuse participation. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genêt pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer et devenir un des invités du jour. Mais vous pouvez aussi me retrouver en intimité dans mon club de lecture mensuel. Contactez-moi à myriam@radiobulle.net ou à Café César sur Facebook. Au revoir tout le monde.
Au revoir tout le monde. Au revoir Myriam.
Au revoir Myriam.
Au revoir.